podcasts d'AFDS.tv, aux frontières des séries. Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Les dossiers d'AFDS.tv, Alexandre Marlier.
Au programme aujourd'hui de notre dossier, une agence de détectives un peu différente des autres, puisqu'on parle de Clair de Lune.
Et c'est une série des années 80, ça fait du bien de temps en temps de se plonger dans les années 80. Elle a été produite par Glenn Gordon Caron, et elle comptait 66 épisodes. Et ce qui est intéressant, le plus intéressant probablement, c'est pas que c'est une série de détectives privés, c'est pas que c'est une série des années 80, mais c'est que c'est une série avec des acteurs, un acteur important, n'est-ce pas Nat ?
Eh bien oui, bonjour Sarah. Eh bien, c'est Bruce Willis. Je crois qu'il était un petit peu temps de parler de cette série, donc on a qualifié de culte, et de s'attarder en fait sur cette série qui a révélé en fait Bruce Willis au grand public. Il faut savoir que avant de devenir ce fameux action hero des années 80 et des années 90, Bruce Willis a donc commencé à la télévision. Il a été révélé dans Deux flics à Miami en fait, aux côtés de Don Johnson et Philip Michael Thomas, et où il jouait un rôle de méchant que Don Johnson arrivait à arrêter à la fin.
C'est évident.
Voilà, forcément, bien sûr. Mais donc, suite à cet épisode, donc, il s'est fait remarquer et on a fait appel à lui, donc, pour devenir un des héros de Clair de Lune. En tout cas, Bruce Willis, c'est la preuve vivante que, on peut se débarrasser de son image télévisuelle et devenir une grande star de cinéma. Parce que moi, personnellement, avant, j'avais pas entendu parler de Clair de Lune auparavant et je savais pas du tout que Bruce Willis avait commencé à la télévision, comme quoi il est quand même possible. C'est vrai que quand on parlait de Bruce Willis, je pensais plutôt à la trilogie Die Hard ou Le Sixième Sens et pas du tout à la télévision.
Il va pas être très content que tu rappelles tout ça, alors, à mon avis.
Oh, mais je crois qu'il a pas à rougir de ce qu'il a fait à la télévision, ça c'est sûr. Je voudrais quand même faire une petite parenthèse avant vraiment de parler de la série. C'est assez intéressant de constater quand même l'évolution des relations qu'entretiennent donc les stars avec la télévision et le cinéma, parce qu'il y a 20-30 ans, on a l'impression que la télévision faisait simplement office de tremplin pour les futures stars. C'était vraiment genre une petite école là où on essaie de commencer à les glorifier, à les faire connaître au public, et puis après on passe au cinéma et puis bon, on laisse tomber la télévision. Et maintenant c'est assez intéressant de voir que les choses se sont un peu retournées, puisque la télévision a quand même commencé à s'émanciper par rapport au cinéma, à créer ses propres fictions avec ses particularités, ce qui fait que maintenant, passer de l'un à l'autre est beaucoup plus difficile.
C'est parfois souvent l'inverse aussi, l'acteur de cinéma qui va jouer dans la série télévisée.
Voilà, maintenant c'est oui voilà, exactement, c'est ça qui est très ironique, c'est que ce sont effectivement les guest stars se comptent à l'appel, et même il y a même des stars qui supplient pour avoir leur propre série. Bette Midler,
il y a eu Glenn Close dans The Shield il y a pas très longtemps.
Voilà,
donc c'est quand même une pointure, ouais, c'est vrai.
Voilà, c'est ça quoi, Jack Bauer donc dans 24 heures chrono, Kiefer Sutherland. Donc c'est assez intéressant ce retournement de situation. Le contraire est de plus en plus difficile. Moi, je vois les acteurs de Friends qui ont un mal fou maintenant à percer au cinéma. Enfin, j'espère peut-être que pour eux, ils y arriveront, mais pour le moment, ils n'y arrivent pas du tout. C'est vrai que quand on voit Matthew Perry au cinéma, on pense toujours à Chandler et pas à quelqu'un d'autre, ça c'est sûr. Bref, je vais quand même revenir à la série et à l'autre,
80.
Voilà, aux
ouais.
années 80 et à la série, et à l'autre actrice qui jouait aux côtés de Bruce Willis, qui s'appelle Sybil Shepherd. Alors là, par contre, ce nom n'éveille aucun souvenir en moi, je ne sais pas pour vous, mais c'est sûr que moi, ça ne me rappelle pas grand-chose. En tout cas, sachez que cette jeune belle femme au brushing, toujours impeccable dans la série, et aux robes et aux tailleurs les plus kitsch, puisqu'elle est toujours habillée avec des trucs à paillettes, avec de grandes épaulettes, très années 80. Eh bien, en tout cas, sachez que cette jeune femme a été couronnée Miss Teenage Memphis en 1966.
C'est important, je crois.
C'est très
oui.
important à savoir, je crois. Ce que j'aime bien, c'est que ça fait le parallèle par rapport à son personnage qui était aussi mannequin. Donc, je crois que c'est un petit clin d'œil assez intéressant quand même à souligner. Et il faut quand même savoir qu'elle a joué aussi aux côtés de De Niro dans Taxi Driver. Mais contrairement à Bruce Willis, cette dernière qui a connu la gloire avec la série, eh bien, par après, je crois que son image s'est un peu éteinte, puisque je ne me souviens pas avoir entendu parler d'elle.
Je crois qu'elle fait de la politique actuellement.
En tout cas, moi, ce que je sais, c'est qu'en 2000, aux aux États-Unis, elle a écrit son autobiographie. Cette quinquagénaire maintenant parlait de sa vie privée avec moult détails. C'est là qu'on a appris qu'elle était sortie avec le King, qu'elle avait eu les faveurs de Bruce Willis et de Don Johnson, comme le monde est petit, hein. Alors, elle est pas du tout jalouse du succès de ses anciens partenaires, puisqu'elle aurait avoué dans ce livre que Bruce s'embrasserait comme un chameau, ou encore que Don Johnson serait un petit peu trop pressé au lit. C'est, je trouve ça assez charmant.
C'est délicat.
C'est délicat, voilà. Enfin bon, sachez qu'outre ses talents indéniables d'écrivain, elle s'est aussi essayée à la chanson, et plus particulièrement au jazz. Je crois qu'on peut le voir sur son site internet officiel qu'elle s'est essayée au jazz. Et le jazz, je trouve que c'est une musique qui sous-tend très souvent la série. En tout cas, toutes les scènes romantiques de la série sont accompagnées par un petit numéro musical un peu jazzy avec un saxophone. C'est très kitsch.
On s'est débrouillé comme des chefs.
Pas mal, pas mal.
On a éclairci ce mystère.
Le grand Hercule Poirot n'aurait sûrement pas fait mieux.
Il n'y a peut-être pas de quoi en faire une montagne, mais je suis fière de moi.
Vous ne prenez pas cet air suffisant, hein. Je vous ai vu en petite culotte.
Mais admettez-le, vous êtes aussi étonné que moi.
Vous rigolez, je savais qu'on y arriverait. On forme un super tandem.
La cause est irrémédiablement perdue d'avance.
J'ai dit ça, moi.
Avec une grande conviction.
Je ne le pensais pas. En fait, j'ai dit ça histoire de vous stimuler.
Me stimuler?
Il vous fallait ça.
J'aime bien travailler avec vous.
Bon, chouette, ça tombe bien, c'est réciproque.
Bon.
Il
est tard.
Merci d'avoir tenu le coup.
Merci de m'avoir stimulée.
Vous êtes une chic fille.
Vous n'êtes pas mal non plus. Pas mal du tout. On s'est débrouillés comme des chefs.
Ce sont deux personnages que tout oppose, mais je crois que le mieux c'est de commencer à raconter l'histoire au début pour un peu essayer de situer ce qui se passe. Donc Maddie Hayes, jouée par Cybill Shepherd, est devenue une star millionnaire, un mannequin renommé en vantant les mérites du shampoing clair de lune, d'où le titre. Et c'était une pub qui passait à la télévision. Alors la jeune femme avait tout pour être heureuse, riche, reconnue et tout, jusqu'au jour où elle se rend compte qu'elle est ruinée parce que son comptable s'est évanoui dans la nature avec tout son argent. C'est très sympathique. Donc, pour survivre, elle décide de vendre ses parts dans diverses sociétés qu'elle possède. Et c'est à ce moment précis qu'elle découvre l'existence d'une agence de détectives qui lui appartenait. Mais ça, elle ne le savait pas, donc elle le découvre selon elle-même. Et donc là, elle est décidée à renvoyer son directeur, un certain David Addison, qui est joué par Bruce Willis. Donc elle se rend dans les locaux de l'agence. Elle tombe alors nez à nez avec ce fameux directeur, qui se révèle être son antithèse la plus totale. Donc autant elle est belle, froide, un peu distante, prévisible, autant lui est fêtard, guéluron, bout en train, et plutôt à mettre toujours les pieds dans le plat là où il faut pas.
Un peu dragueur aussi.
Ah oui, un peu beaucoup, mais lui il tombe immédiatement amoureux d'elle, mais elle le rejette et bien entendu on se doute immédiatement que on sait déjà comment ça va terminer. Bref, donc elle était quand même partie pour le virer, mais par un concours de circonstances David arrive à la persuader de ne pas fermer l'agence, et mieux encore, il arrive à la persuader de la diriger elle-même. Et donc elle s'improvise détective privée. Alors le raccourci de mannequin détective privé est un peu particulier, mais bon, allez, pourquoi pas. Et donc avec David, elle va résoudre des énigmes les plus tordues les unes que les autres. Alors là, on dirait qu'au premier abord, on pourrait dire, bon, on est face à une série policière, Starsky et Hutch, le buddy movie, les gens qui ne s'apprécient pas au début, qui vont apprendre à s'apprécier petit à petit. Et c'est vrai qu'il y a un peu toutes les scènes habituelles des séries policières, avec ses intrigues, des meurtres, des poursuites en voiture. Mais le spectateur va très vite comprendre que l'intérêt, le sel de la série n'est vraiment pas là. C'est plutôt effectivement dans les relations que nous, les deux personnages, les deux héros, Maddie et David. Et donc, Clair de Lune est en réalité une série romantique qui en a inspiré plus d'autres, comme Loïs et Clair, par exemple, cette série dont j'ai déjà parlé et que j'aime vraiment beaucoup.
Est-ce que les scénaristes, justement, ont évité l'écueil de mannequin joli, délicieuse idiote?
Non, elle n'est pas idiote. Non, je crois qu'ils ont quand même évité cet écueil-là. Non, elle n'est pas idiote, elle est même plutôt intelligente. Elle est des fois bornée, ce qui l'amène des fois dans des situations où elle passe pour une idiote, mais elle est vraiment
très loin d'être. On n'est pas dans le cliché, là,
complètement. Non, on est loin d'un cliché, surtout qu'elle est blonde. Donc c'est vrai qu'ils auraient pu plonger dedans. Dès le premier épisode, donc cette première rencontre entre les deux personnages fait des étincelles, mais dans tous les sens du terme, puisqu'on comprend qu'il va devenir amoureux. Et là, vraiment, casse-tête pour les scénaristes, puisque comme le spectateur sait déjà très bien comment ça va terminer, ils vont devoir tout faire en sorte pour maintenir ce... une sorte de pseudo-suspense.
Retenir
pour...
au maximum le moment où
voilà,
le premier
baiser. Voilà, exactement. Là, on est carrément dans l'orgasme retardé, l'image de l'orgasme retardé, c'est-à-dire faire avancer la relation pas à pas dans chaque épisode pour que le spectateur soit un peu émoustillé, soit un peu excité en se disant « Ouh, là, je sens que ça vient ». Et puis ne pas aller trop vite non plus pour ne pas précipiter les choses forcément, ne pas non plus rester sur place pour pas que le spectateur dise bon alors maintenant c'est quand que ça vient parce que ça commence à m'ennuyer. Puis il arrive fatalement le moment où ils sont tellement proches qu'ils ne peuvent que sortir ensemble, sinon ça devient complètement ridicule et caricatural. Tout l'intérêt était vraiment là.
Et on voit que d'autres séries postérieures à Clair de Lune ont le même genre de fonctionnement, puisque X-Files fonctionnait là-dessus aussi.
Voilà, exactement.
Mulder et Scully, comment ne pas les faire sortir ensemble?
Oui, et les gens ont attendu quand même très très longtemps avant que ça puisse plus ou moins se réaliser. Pour Clair de Lune, c'est aussi le cas, ils ont attendu plus de 3 saisons, et ils ont enfin fini par sortir ensemble, mais est arrivé forcément le moment où, après l'orgasme, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, l'intérêt diminue forcément. Et c'est vrai que Clair de Lune n'a pas échappé à cette règle, malheureusement.
Et je pense qu'il y avait aussi des espèces de mini-rencontres, comme dans X-Files, où par exemple, ils sortent ensemble, et en fait, c'est un rêve, ou ce genre de choses, où on donne
des trucs
un
petit peu oniriques, ouais. On se dit, ah, ça y est, et puis ouais. Ben non, tout repart en arrière, ouais, voilà. Et puis, il y a beaucoup de séries qui se mettent quand même sur ce thème-là, avec Une Nounou d'Enfer aussi, avec exactement ce thème-là. On savait très bien que Fran allait sortir avec Monsieur Sheffield, dès le départ, mais là, ils ont quand même attendu, et ils se sont pourtant déclaré leur flamme bien, bien avant, mais à chaque fois, ils revenaient en arrière. Ce qui a le don un peu d'être agaçant quand même à certains moments, parce qu'on se dit, bon, alors c'est quand que ça arrive maintenant?
Ah, ça c'est une affaire comme je les aime. Sexe, violence et tout y quanti. Quand on aura démêlé tout ça, on en fera un film. Mel Gibson jouera mon personnage, je passerai à la télé, je serai interviewé par Barbara Waters, et après l'émission, toutes les femmes de ce noble pays m'écriront à tour de bras pour me faire des propositions lubriques.
Ici Paul McCain, je vous écoute.
Nous ne ferons pas cette enquête.
Et pour quelle raison?
Paul McCann est un dégoûtant personnage.
Mais il est mort!
Il n'a eu que ce qu'il méritait.
Vous êtes bien sévère.
Étant donné le genre de vie dissolue qu'il a mené, la façon dont il est mort ne me surprend pas du tout.
Vous êtes furibarde parce qu'il a fait pouet-pouet une tripotée de ménagères.
Ici prend fin cette conversation. Nous ne ferons pas cette enquête.
Il y a une maxime que j'aime bien.
Motus, c'est bouche cousue.
Avant de juger ton voisin, juge-toi toi-même.
D'où tenez-vous ça?
J'ai lu ça sur un autocollant. Mais je trouve que c'est une pensée profonde, c'est une grande affaire.
Une affaire malsaine,
super affaire.
Bon
sang, écoutez.
Je ne peux plus entendre parler. Quand nous serons de retour au bureau, nous nous décarcasserons pour trouver une véritable enquête. Et un client nanti d'une certaine moralité et d'un chéquier.
Bien.
Vu?
Oui.
Bon.
Vous savez ce que vous êtes? Une frustrée.
Vous trouvez que je suis une frustrée parce que je refuse d'accepter cette enquête?
Non. Ce que je veux dire, c'est que vous êtes refoulée ou obsédée ou quelque chose comme ça, parce qu'à chaque fois que la conversation a trait aux hommes ou alors au sexe ou bien...
Pouet, c'est ce que vous voulez dire?
Mais à mon avis, ça n'est pas normal.
Ce qui ne l'est pas, c'est de discuter de ma santé mentale avec un homme qui, pour parler de l'acte sexuel, emploie des termes aussi périls.
Vous voyez, c'est ce que je veux dire tout de suite.
Non, je ne vois pas ce que vous voulez dire. Et si j'ai l'air crispée, c'est uniquement à cause de vous. C'est vous qui me mettez dans cet état.
Si je vous mets dans cet état, c'est parce que je suis le seul homme que vous fréquentez. Je suis prêt à parier que dans votre vie, il n'y a pas d'autre homme que moi et que tous les soirs, quand vient 9h30, lorsque vous éteignez la lumière, vous avez le cafard tellement vous
il
êtes
seul. Il y a tant d'hommes dans ma vie que je ne sais même plus quoi en faire.
Je veux des noms.
Ça, pas question.
Dites plutôt que vous ne pouvez pas en donner parce que vous n'en avez pas un seul sur le bout de la langue. En fait, vous n'êtes qu'une vieille fille aigrie.
Vous parlez
et
dans
c'est
le
pour
vide.
Ça que vous refusez de vous occuper du cas Paul McKay. Parce que vous êtes frustré et ça
plus.
Vous rend complètement cinglé que tout le monde fasse.
Non, arrêtez maintenant, vous dépassez
tout le monde
les
sur la terre à part vous.
L'affaire.
Pouette. Pouette.
Ça suffit, David.
Pouette.
Sortez de ma voiture.
Pouette.
Ah, vous allez sortir de là, hein?
Il y a quelque chose que j'ai dit?
Pour ma petite critique de la série, au départ, je suis tombé sur un premier épisode auquel je n'avais pas du tout accroché. Je trouvais ça un petit peu ridicule. Je me disais, ouh là là, une série culte, ça, mais je comprends pas du tout. Moi, il y a des séries qui ont beaucoup mieux vieilli que ça, je ne comprends pas. Heureusement pour moi, je me suis un peu plus accroché et j'ai vu d'autres épisodes qui m'ont séduit parce qu'il y a d'autres éléments très intéressants dans cette série qui sont ceux-ci. Et bien tout simplement, on se rend compte, pas tellement dans la première saison qui est plutôt sobre, mais dans les saisons qui suivent, que cette série est une série timbrée et fière de l'être, tout simplement parce qu'elle se regarde dans un miroir. En fait, on se rend compte petit à petit que les personnages sont totalement conscients d'être des personnages de série et d'être le produit de scénaristes. Et donc, il arrive très souvent que Maddie fasse la réflexion à David en disant mais qu'est-ce qu'on fait maintenant, et que lui dise je sais pas, j'ai pas lu le scénario. Donc là on se dit ah, il y a un petit clin d'œil. Donc en fait, ce qui est vraiment très chouette, c'est que c'est la première série à avoir pris en compte en fait la culture télévisuelle du téléspectateur et surtout en jouer avec lui. C'est après que Dream On a repris un peu ce principe en jouant très fort sur la culture télévisuelle,
et ça donnait même lieu à des moments de délire carrément.
Ah oui, mais de délire absolu. Lorsque à la fin d'un épisode qui commençait à tendre un peu en longueur, puisque les épisodes faisaient à peu près 47 minutes et que le dénouement n'était pas réalisé, eh bien on voyait les techniciens commencer à démonter le décor en arrière-plan. Et donc voilà, c'était la première fois que je voyais ça dans une série. C'est vraiment
surprenant la première fois qu'on voit
oui.
ça.
Oui, c'est ça. Quoi. On se dit mais qu'est-ce qu'ils font là derrière ? Ah ben ils démontent le décor. Bon, d'accord. Il y a un autre moment où l'épisode par contre est trop court, et là pour meubler les 5 minutes qui restent, les personnages font un petit numéro musical, un petit spectacle. On se dit ah, c'est nouveau aussi, bon.
Moi j'avais vu un épisode de fin de saison où les deux acteurs sortaient du studio et se disaient allez, on se revoit en septembre pour la prochaine saison, et qu'est-ce que tu fais de tes vacances. Voilà, il y avait une petite discussion en fin d'épisode. C'était assez
c'était un élément qui avait été d'ailleurs repris dans, ça me fait penser maintenant, la série française Blague à part, à la fin de la deuxième ou de la troisième saison, je me souviens plus très bien, où on voyait justement les personnages comme ça qui discutaient ensemble en disant bon moi, et on voyait aussi le public qui avait assisté à l'émission et tout. C'était assez marrant.
Dans le même genre mais tout à fait différent, la fin de Snoops aussi, quitte
oui tout à fait,
ils quittent le plateau et ils s'en vont, mais là c'est plus du sabordage qu'autre chose parce que David Kelley n'était pas du tout content que ça se termine, mais
oui, mais ici ils ont joué cette règle jusqu'au bout, puisque même à l'arrêt de la série après 5 saisons, le producteur de la série est carrément rentré dans le dernier épisode pour dire bon ben voilà, maintenant c'est fini. Donc là ils ont quand même joué le jeu jusqu'au bout, c'est très sympathique. Alors autre exemple aussi de ce côté décalé, il arrive que les personnages s'adressent directement à la caméra, donc au public, et que ce public répond fictivement, puisqu'on voit alors cette caméra en subjectif qui répond non ou oui selon la question qui a été posée.
Oui, il y avait même dans le genre le Génération Série racontait cette anecdote où les personnages avaient débuté l'épisode en disant que le public était prié de mettre les lunettes au vert bleu et rouge qu'ils avaient reçu pour voir l'épisode en 3D, et que des téléspectateurs américains avaient écrit en protestant qu'ils n'avaient pas reçu leurs lunettes bleues et rouges. Donc vraiment, parfois, ils ont même joué avec ça, je trouve.
Oui, ils ont beaucoup joué la carte de l'interactivité avec le public, puisqu'il y avait aussi certains épisodes qui s'ouvraient sur Maddie et David qui épluchaient le courrier des lecteurs et qui y répondaient quand même. Donc bon, allez, rien que ça. Et puis, donc pour ma part, en fait, vraiment, c'est la partie de la série qui est quand même la plus réjouissante et qui a justement n'a pas du tout vieilli, puisque ce côté totalement décalé, le miroir dans le miroir, ne vieillit pas parce que c'était totalement nouveau. Et puis, c'est vraiment bien amené. Là, c'est très drôle, c'est très étonnant.
Le problème, c'est que c'est pas tout le temps.
Voilà, c'est ça le
et
problème.
Et que les épisodes entre deux n'ont pas la qualité suffisante que pour arriver à rendre ouais. cette série parfaite.
Voilà, exactement. Je crois que c'est la critique, la première critique qu'on peut faire quand même à cette série, et la plus grosse critique, c'est le manque de constance dans les épisodes. Parce qu'effectivement, il y a des épisodes qui valent vraiment le détour. On se dit chouette, ça c'était super drôle, ils ont vraiment bien marqué le coup. Et puis d'autres épisodes où on s'ennuie, franchement, où il se passe rien du tout. Il n'y a pas d'élément vraiment comique. La relation entre les personnages n'évolue pas, et on se dit bon, mais ils sont endormis, les scénaristes, quand ils ont écrit cet épisode, ou ils ont voulu remplir les 45 minutes. Mais c'est, ça, c'est vraiment dommage. Et donc, c'est vrai que si vous tombez sur un épisode comme ça, vous risquez d'être assez découragé de voir la suite de la série en disant quoi, c'est ça une série culte, mais enfin, c'est ridicule.
Il faut la regarder en sélectionnant les épisodes suivant les guides qui ont été publiés sur Internet.
Voilà, exactement. Ou alors, quand même, la regarder en entier pour voir l'évolution de la relation entre David et Maddie. Mais c'est sûr qu'il y a certains épisodes, et c'est surtout dans la saison 4 que ça se sent ressent le plus. Une saison 4 aussi qui a été marquée par l'absence de Sybil Shepherd pendant une grosse partie de cette saison, puisqu'elle a dû quitter la série pour donner naissance à des jumeaux. Et dans cette saison, ils ont décidé de remplacer le couple Maddie-David par un autre couple, le temps que Sybil Shepherd revienne. Ce couple était formé par Agnès Tospito, donc qui est la secrétaire fantasque de l'agence, un petit peu bébête. Elle, c'est vraiment la... Elle n'est pas blonde, mais elle est... c'est vraiment la blonde de l'agence, vraiment à tout prendre au premier degré. Et elle forme un couple avec Herbert Viola, le partenaire malheureux de David. Et donc cette partie est franchement dispensable.
Retrouvez aux frontières des séries sur le web www.afds.tv.